affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour. Même si pour Canal Académie, cette émission représente l'entrée dans un nouveau printemps, puisque c'est la bonne nouvelle, votre antenne reprend désormais ses émissions hebdomadaires, nous sommes bel et bien, cela ne vous a pas échappé, entrés dans l'automne. Et en France, l'automne, ce n'est pas seulement la saison des feuilles mortes, qui se ramassent à la pelle comme chacun sait, c'est aussi la saison des fruits mûrs, c'est la saison des vendanges. Et c'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui dans nos studios Jean-Robert Pitt, qui n'est pas seulement le président de Canal Académie et un membre éminent de l'Académie des sciences morales et politiques, mais aussi et surtout l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire du vin et de la géographie du vin, puisque Jean-Robert Pitt est géographe, à laquelle il a consacré de nombreux ouvrages. Je cite pour mémoire, parmi ses ouvrages, « Le désir de vin à la conquête du monde », un magistral essai sur une mondialisation heureuse celle-ci, celle de la consommation de vin, qui de la fin du néolithique à nos jours n'a cessé de conquérir de nouveaux adeptes. Mais aussi un tout récent ouvrage sur l'invention de la bouteille de vin, une véritable révolution à ses dires, puisqu'elle a permis la conservation, le transport et finalement l'expansion du vin à travers le monde. Vous l'avez compris, c'est avec l'œil du géographe que Jean-Robert Pitt aborde le sujet du vin, scrutant les sillons de nos terroirs, mais aussi ceux que creusent dans les mers les négociants. Car il y a aussi, depuis toujours, nous le verrons, une géopolitique du vin et bien sûr une géoéconomie du vin. Mais au-delà, Jean-Robert Pitt aborde aussi le vin en amateur éclairé, puisqu'il a récemment publié un petit recueil de textes absolument charmants, intitulé très sobrement, mais aussi très directement, « L'amour du vin ». Au cours de cette émission, il ne sera donc pas seulement question de connaissances, mais aussi, vous le verrez, de sentiments. Car oui, le vin ne laisse pas indifférent. C'est un objet culturel, mais aussi un objet sensuel. Il suscite depuis toujours l'attirance, la concupiscence, mais aussi la méfiance, l'attirance et la répulsion. Il nous faudra donc aussi revenir sur le récent plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives qui inquiète et qui blesse les amateurs et les producteurs de vin puisqu'il tente à inscrire et à réduire le vin à l'alcool qu'il contient et sa consommation à une addiction mortifère. Toutefois, revenons au sentiment, à cet amour du vin qui traverse notre histoire, en donnant enfin la parole à notre invité, Jean-Robert Pitt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous, pour introduire notre sujet, nous confier votre première rencontre avec le vin et la genèse de l'amour que vous lui portez ?
Oh, ma première rencontre doit remonter fort loin, parce que comme tous les Français de ma génération, j'ai eu de l'eau rosie, j'ai dû boire une larme de champagne les jours de fête quand j'étais petit, et puis de l'eau rosie à partir de l'âge de 8-9 ans, le boudoir dans le vin pur les jours de fête, dans la bouteille bouchée du dimanche, qui est ma petite madeleine à moi, c'est pas dans du thé, c'est le boudoir trempé dans le vin, et puis la véritable initiation, c'est les vendanges que j'ai faites quand je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça, en Bourgogne, dans un monde paysan que je connaissais très très mal. J'ai vaguement vu pendant les vacances ce qu'était le monde agricole français, mais là, passé presque un mois en Bourgogne en période de vendanges, c'est une plongée dans un univers que j'ai trouvé d'une part très exotique, passionnant, mais qui m'a vraiment marqué à tous égards, enfin culturellement, sentimentalement, et un événement comme ça à la fin de l'adolescence pour un petit Parisien de la banlieue, c'est vraiment important. On comprend beaucoup beaucoup de choses, et en tout cas j'ai compris un peu ce qu'était le vin, j'ai commencé à comprendre ce qu'était le vin, et je ne me suis jamais plus départi de cette affection pour cette boisson. Et donc ensuite, je fais les études de géographie, et pendant les études de géographie à la française, on parle pas mal de vin, pour une raison d'ailleurs. Bon, d'abord parce qu'il y a à la fois de la nature et de la culture, du physique et de l'humain, du terroir, et puis en même temps de l'histoire des techniques, mais aussi parce que sur les cartes, un des exercices favoris des géographes universitaires, c'est le commentaire de cartes topographiques de l'Institut Géographique National, et les cartes ont été faites d'abord pour les militaires. Et donc, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, les cartes n'indiquent pas du tout quelles sont les cultures, sauf les cultures qui pourraient gêner l'avancée d'une armée. Donc sont indiquées les vergers et les vignes, par des symboles particuliers. Et donc, on a appris très tôt, très jeune, dans les études de géographie, on apprend très tôt à repérer les vignobles et à essayer de comprendre pourquoi ils sont là. Nous, on ne travaille pas dans l'esprit des militaires, mais on essaie de comprendre pourquoi il y a des vignes ici et pas ailleurs. Et donc, une espèce de déformation, formation du regard au repérage des vignes et à la compréhension de leur présence. Et donc, j'ai fait ma maîtrise après sur un petit vignoble qui s'appelle le vignoble du Buget, et je n'ai cessé depuis de m'intéresser en tant que géographe et historien à la vigne et au vin, et j'espère que ça durera encore longtemps.
Vous avez donc creusé et creusé ce sillon qui vous a mené certainement fort loin, car si votre histoire d'amour est bien sûr particulière et unique, comme toutes les histoires d'amour, elle s'inscrit dans une idylle plus vaste. J'imagine que vous avez découvert tout un monde. Et une idylle qui unit l'humanité tout entière au vin. De quand date finalement cette rencontre entre l'humanité et le vin ?
Ah ben, elle commence à être bien cernée, ce qui est assez nouveau grâce à des découvertes archéologiques menées par les Américains, l'équipe de McGovern, mais aussi par exemple les Arméniens récemment, qui ont pratiqué des fouilles dans une grotte située à proximité du mont Ararat, côté Arménie, et qui a été datée de 6100, donc datant de 6100 années, mais il y a des vignobles sans doute et du vin plus anciens, remontant probablement au 6e millénaire, 5e, 6e, avant notre ère. Donc depuis 7000 ans, en gros, on élabore du vin dans les montagnes qui entourent le croissant fertile. Donc c'est là où est apparue la viticulture, le Caucase, le sud de la Turquie actuelle, les montagnes de Syrie, d'Israël d'aujourd'hui, du Liban et de la Jordanie, et l'Iran. Le Zagros iranien. C'est là où on invente le vin à partir d'une plante sauvage qui est Vitis vinifera, qui donne des petites baies que l'on va sélectionner, cultiver, améliorer pour faire grossir les grains, avoir davantage de jus, du jus plus sucré. Donc c'est tout un processus qui dure pendant des millénaires et qui surtout se diffuse à partir de là. La viticulture se diffuse à partir de ces montagnes vers les plaines, Mésopotamie, Égypte, vallée du Jourdain, et puis vers les régions périphériques. Donc la vigne entre dans le monde grec, venant d'Orient, entre dans le monde grec. D'ailleurs, le dieu Dionysos lui-même vient d'Orient. On dit même qu'il vient dans l'anthropologie religieuse et l'histoire religieuse des confins de l'Indus, donc vraiment de la Perse orientale. Et puis, donc il devient un dieu dans le monde grec, alors qu'il ne l'est pas encore dans le monde juif. Il n'est évidemment pas un dieu, puisque Dieu ne se... est immatériel, mais il est le signe de l'alliance entre le peuple élu et le dieu unique. Pour les Grecs, il est un dieu, Dionysos. Les Romains vont reprendre l'idée grecque et faire de Dionysos le dieu Bacchus, et donc étendre ce culte du vin divinisé dans tout le bassin méditerranéen et parfois fort loin, au point que les Gaulois qui ne fabriquent pas de vin sont fascinés par le vin, ils l'achètent très très cher, 500 ans avant Jésus-Christ, ils payent déjà une amphore de vin d'un esclave. Et puis arrive cet événement majeur de l'histoire religieuse, l'histoire de l'humanité, qui est donc la révélation christique, donc l'incarnation du Fils de Dieu dans ce monde juif hellénisé. Et quand on lit les évangiles, on voit à quel point le vin est central, puisque le premier miracle du Christ, ce sont les noces de Cana. Puis il y a des quantité de faits au cours qu'on lit dans les évangiles, où le vin est très présent, et Jésus ne refuse jamais un banquet ni un verre de vin. Et n'oubliez pas qu'à Cana, il a transformé de l'eau, non pas en un petit vin, mais dans un grand vin, ce qui est reproché au maître de maison. On lui dit: comment tu nous sers le grand vin alors que tout le monde est déjà dans un état un peu avancé d'ébriété? Et voilà, il est évident que c'est un signe qui doit être éclatant, puisque c'est le premier signe de la vie publique de Jésus. Et donc ce premier signe, c'est la transformation d'eau en un très grand vin. Et puis le dernier signe, c'est évidemment la fondation de l'Eucharistie,
la scène,
avec à la scène, avec d'abord de très belles paroles sur le vin qui sont prononcées auparavant. Je suis la vigne, vous êtes les sarments, etc. Et puis, cet acte invraisemblable pour la mentalité cartésienne d'aujourd'hui, même pour les croyants, même pour les chrétiens, où le Christ dit, à la veille de sa passion, le soir de la Pâque, banquet de la Pâque, donc mange de l'agneau, mais à la fin du repas, il prend du pain et il dit, il le rompt, pain qui a une valeur symbolique très forte, évidemment, dans le judaïsme, il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, vous ferez cela en mémoire de moi, et prenez et buvez avec du vin, ceci est mon sang, et vous ferez cela en mémoire de moi. Donc il institue l'Eucharistie, et là on voit très bien la fusion entre la tradition juive et la tradition grecque, puisque après cet événement, chaque commémoration fait que le corps, le sang du Christ apparaît sur l'autel, exactement comme au cours du banquet grec, à la fin du banquet, il y a le symposium où on fait tourner une coupe de vin mêlée à de l'eau, et on, comme d'ailleurs dans la messe, où on met une goutte d'eau dans le vin symboliquement, mais qui vient de la tradition grecque, et on boit.
Les agapes.
C'est le symposium, boire ensemble, symposium, et à ce moment-là, c'est le Dionysos lui-même que l'on boit, de même que au cours de l'Eucharistie, c'est le sang du Christ lui-même que l'on boit. Alors aujourd'hui, ça nous apparaît bizarre, mais
il y a beaucoup de correspondances qui ont été faites entre le Christ et Dionysos. Vous pouvez nous les.
Oui, ne serait-ce que Dionysos est né deux fois, une fois de sa mère et une fois, mais il n'était pas fini, et une fois de la cuisse de Jupiter, et le Christ naît deux fois aussi, une fois de sa mère, qui est, comme la mère de Dionysos, une mortelle, le père étant un dieu, puisque c'est mêlé, la mère de Dionysos s'unit à Zeus, et elle veut voir Zeus dans toute sa majesté, dans toute sa splendeur, alors que Zeus sait très bien ce qui va lui arriver. Donc il se montre à elle dans toute sa splendeur, et elle est foudroyée par la présence de Zeus, donc elle meurt, mais Dionysos reste vivant. Et Marie est bien sûr fille de mortel, et reste vierge et s'unit à l'Esprit Saint pour engendrer le Fils. C'est très étonnant comme parallèle. Mais il faut comprendre à l'époque à laquelle ces choses-là se produisent. L'incarnation, elle se produit dans cette Méditerranée orientale qui est très, très hellénisée. Donc on comprend que ça ait parlé aussi à ces gens-là. Alors que pour un Européen occidental du XXIe siècle, même croyant, ça reste quand même de l'ordre du totalement impossible, invraisemblable. Et donc il faut vraiment encore plus de foi, je dirais, pour y croire qu'à cette époque. Mais surtout, je termine peut-être la réponse à votre question précédente, c'est cette entrée du vin dans une religion qui va s'étendre sur toute la surface de la Terre, d'abord à tout l'Empire romain, puisque progressivement l'Empire romain païen va se convertir au christianisme. Par conséquent, la vigne va encore acquérir un statut plus noble que celui qu'elle avait auparavant. Et
alors, justement, en Gaule, oui. Nos ancêtres, les Gaulois, initialement, ne sont pas des buveurs de vin. Vous l'avez dit, c'est un produit initialement importé. Mmh. À quelle période cela se produit-il? Selon quelle modalité et comment vont-ils ensuite s'approprier ce breuvage?
C'est très simple. Ils se l'étaient déjà approprié, puisque les aristocrates gaulois de la Gaule chevelue, de la Gaule indépendante, buvaient du vin quand ils le pouvaient et quand ils avaient de l'argent. Donc ils en achetaient et ils le buvaient. On trouve dans les sites archéologiques gaulois antérieurs à la conquête de César des grands nombres de tessons d'amphores. Donc ils en achetaient, ils le buvaient, puis ils cassaient les amphores, parce qu'on
n'y avait pas de consigne.
On ne recyclait pas. Si, on recyclait, après on a recyclé en cassant finement pour mêler à de la terre et faire des tuiles, par exemple, ou d'autres amphores beaucoup plus solides. Ça s'appelle la terre chamottée. Ça, je ferme cette parenthèse technique. Mais ce qui est important, c'est que les Gaulois donc découvrent l'art de faire le vin à partir du moment où ils deviennent romains. Donc c'est d'abord les régions de la Provincia au IIe siècle avant Jésus-Christ, où là, les Romains sont installés et les Gaulois découvre la viticulture et pratique la viticulture, puis ensuite, avec la conquête de Jules César, toutes les Gaules, donc jusqu'au Rhin, en gros jusqu'au Limès, jusqu'aux frontières du monde barbare, en gros c'est les Celtes gaulois découvrent la viticulture et les Germains sont dans la même position que les Gaulois, donc ils achètent du vin, mais ils font pas de vin. Et les Gaulois se passionnent tellement pour le vin et pour la viticulture, par conséquent, qu'ils plantent beaucoup, beaucoup, beaucoup de vignes, au point qu'un certain empereur Domitien leur interdit de continuer à planter parce que ça met en péril la production des céréales. Et il faut attendre un magnifique empereur qui s'appelle Probus, qui survit dans un bel adjectif, qui est dans un beau nom qui est la probité, pour qu'à nouveau on autorise les Gaulois à planter comme ils veulent, et ils s'en privent pas. Donc les Gaulois sont de très 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 grands amateurs de vin, donc ils abandonnent la cervoise et l'hydromel.
Certains disent que c'était dit interdisant de planter de nouveaux plants de vigne, ou voire même exigeant d'en arracher, était aussi un acte de protectionnisme destiné à favoriser l'exportation des vins italiens.
Les périphéries de l'Empire, je pense à la Gaule, mais aussi à la Tunisie actuelle, par exemple, ou à l'Afrique du Nord en général, étaient des territoires qui étaient moins peuplés que le cœur de l'Empire, c'est-à-dire l'Italie, destinés à produire de la nourriture pour le cœur de l'Empire et pour l'armée romaine, en particulier, évidemment, des céréales. Donc il y a eu péril un peu en la demeure pour les Romains, et d'où cette interdiction, mais politiquement ça tient pas. Interdire aux Gallo-Romains de planter de la vigne, c'est très 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 impopulaire. Donc ils ont continué à planter et à boire du vin en abondance jusqu'à l'arrivée des Germains, où là il y a un effondrement total, et donc retour à la cervoise qui est la bière et à l'hydromel, et la vigne et le vin ne se maintiennent qu'autour des foyers de culture savante et religieuse, c'est-à-dire autour des monastères et des évêchés. Mais c'est très peu de choses. En tout cas, il y a des vignobles, puisqu'on en a besoin pour la messe. Mais ce qui est important, c'est que dès que les barbares se civilisent et finalement se convertissent au christianisme, la viticulture repart. Et dès le 8e siècle, à partir du moment où les Francs, gallo-romains germanisés, sont redevenus chrétiens, évidemment, ils plantent de la vigne et ils boivent du vin. Et après toute l'expansion de l'Europe, parce que bon, on va pas...
Le vin et la civilisation sont donc liés.
Oui, bien sûr, oui, totalement. Il n'y a pas de civilisation sans vin. Je vous vois venir, vous allez me dire que j'exagère un peu, qu'il y a des grandes civilisations qui n'ont pas connu le vin, sauf qu'elles avaient des boissons. Les grandes civilisations de l'histoire de l'humanité ont toujours une boisson fermentée essentielle. Donc, je pense...
L'alcool de riz. L'alcool de riz pour...
Le vin de riz, pas l'alcool. L'alcool, c'est la distillation, mais le vin de riz est très important en Chine, très important dans toute l'Asie sinisée. Le saké au Japon est vraiment au cœur du Shinto et du culte impérial. Le pulqué dans l'Amérique latine. Le vin de palme, si, dans certaines civilisations africaines. La bière. Et la bière aussi, d'une certaine manière, qui est une boisson de civilisation. Et qui est importante pour les peuples germaniques, en particulier quand ils ne peuvent pas cultiver la vigne et faire du vin. À partir du moment où il y a concurrence entre la bière et la vigne, ça s'équilibre, c'est-à-dire que on boit de la bière pour se rafraîchir et pour si on est pauvre, mais dès que on a envie de faire un bon repas, de célébrer une occasion particulière, par exemple en Belgique, c'est bien le cas, on sort des bouteilles de vin. Les Flamands, les Belges flamands sont comme ça, buveurs de bière, mais grands amateurs de vin, plutôt de Bordeaux, alors que les Wallons sont plutôt amateurs de Bourgogne.
Bourgogne, exactement. J'ai lu aussi d'ailleurs qu'en Europe, c'était les Luxembourgeois qui étaient les plus forts consommateurs.
Ça, c'est la vérité statistique absolue. Ils en boivent hein, quand même, ils sont bien connaisseurs, mais je pense que la statistique est trompeuse. Parce qu'il y a beaucoup, le Luxembourg ayant des taxes moins élevées que la France et les pays voisins, beaucoup de voisins frontaliers, et ils sont nombreux autour du Luxembourg, viennent. Soit pour ouvrir des comptes en banque, soit pour acheter du vin.
Ils viennent
qui
pour
coûte
ouvrir
moins
un compte
cher.
En banque, ils repartent avec des caisses de vin.
Avec des caisses de vin.
Cela dit, cette réflexion que vous faisiez nous mène peut-être à établir une frontière un petit peu moins nette entre les peuples dits buveurs de bière et les peuples dits amateurs de vin. tout est déjà contenu d'ailleurs dans cette phrase, une sorte de
buveur et amateur.
Buveur et amateur.
Non, on peut être amateur de bière. Non, on peut être amateur de bière.
Oui,
surtout qu'il y a les bières excellentes. Il y a les bières des bières d'abbaye en Belgique qui sont magnifiques. Il y a les bières allemandes absolument magnifiques. Ce qui est un peu dommage, un peu triste, c'est la bière industrielle passe-partout qui a toujours le même goût d'un bout à l'autre de la planète et qui ressemble à une autre boisson gazeuse que vous connaissez, un peu marron, qui n'est pas alcoolisée mais qui fait des ravages culturels à la surface de la Terre.
C'est certain que cette uniformisation est navrante, nous y reviendrons, puisqu'elle menace peut-être aussi le vin. Toutefois, pour revenir à cette opposition un petit peu factice, j'ai découvert en préparant cette émission, en lisant vos ouvrages, que nous devions beaucoup dans la qualité du vin à nos amis anglais, qui sont généralement catégorisés, probablement pas tout à fait à tort, comme des amateurs de bière.
Non, les Anglais sont des amateurs de bière, c'est l'évidence. En plus, ils avaient traditionnellement, c'est en train de disparaître, mais une façon originale pour nous de consommer la bière, c'est qu'ils la consommaient à température ambiante. Donc, ce dont la bande dessinée Astérix s'est beaucoup moqué, la cervoise tiède, mais ce qui est le meilleur moyen de mettre en valeur le goût particulier de l'aile, si elle est trop froide, elle n'a plus de goût, elle n'a plus de parfum et plus de goût. Donc, c'est une manière assez raffinée de consommer
pour les bières brunes, incontestablement.
Et pour les bières brunes aussi, mais même pour les bières ambrées.
Ambrées aussi.
Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que les Anglais ayant été romanisés puis christianisés, sont nécessairement des buveurs de vin. Bien sûr, l'élite plus que le peuple, mais sont des buveurs de vin. Et ils ont connu un grand malheur, les Anglais, c'est que ils ont essayé de produire du vin pendant tout le Moyen-Âge. L'Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge. Et ils en ont produit. Il y avait un grand vignoble anglais au Moyen-Âge, mais qui, honnêtement, compte tenu du climat de l'Angleterre, ne donnait pas des vins très, très, très agréables et certainement pas des vins tous les ans. Parce qu'il y avait des années trop humides ou des années trop fraîches, donc où il n'y avait pas de vin du tout. Donc ils ont pris l'habitude, pour s'approvisionner, d'aller vers le sud. Et il se trouve que le mariage de Aliénor d'Aquitaine avec Henri II Plantagenet a créé un lien fort entre l'Angleterre et l'Aquitaine, et donc le port de Bordeaux, et que l'Aquitaine, surtout la région proche de Bordeaux, a pris l'habitude d'exporter son vin vers l'Angleterre. Et puis après les besoins grandissants, les Anglais se sont tournés vers d'autres vignobles, ceux de la Basse-Loire par exemple, ou le vignoble de Cognac, mais qui était surtout destiné à faire de l'alcool distillé, enfin la région des Charentes. Et puis arrive au XVIIe siècle, un autre malheur pour l'Angleterre, c'est que là, le petit âge glaciaire refroidit considérablement le climat du nord de l'Europe et que les Anglais ne peuvent plus produire une seule goutte de vin. Donc, comme l'Angleterre est quand même prospère et en croissance économique et en croissance culturelle de consommation, donc il faut du vin et ils vont un peu partout, vers le sud, vers l'Espagne, vers le Portugal, vers les îles, vers Madère, y compris plus tard vers l'Afrique du Sud, acheter du vin et vers la Méditerranée. Et ils importent du vin et donc ils contribuent énormément à perfectionner, un, le transport du vin, deux, la conservation du vin. Et c'est à eux que l'on doit donc la bouteille de vin en verre épais et noir, dont le carburant, enfin la fusion s'effectue au charbon, le bouchon de liège dont ils redécouvrent les vertus au Portugal, enfin de ce matériau qui est le liège, l'écorce du chêne liège, du Quercus suber, c'est eux avec les Hollandais qui voit l'intérêt de mettre un peu de soufre dans le vin ou de brûler des mèches de soufre à l'intérieur des tonneaux pour le conserver et éviter qu'il tourne en vinaigre. Et c'est eux aussi qui découvrent qu'en mettant un peu de sucre dans un vin très acide qu'ils importent de Champagne, qui est un vin blanc extrêmement acide et pas très facile à boire, si on y met du sucre et qu'on met ce vin avec du sucre dans une bouteille en verre épais avec un bouchon de liège, eh bien il se remet à fermenter, le sucre refermente et ça donne donc du champagne. Et le champagne mousseux a été inventé par les Anglais. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé ? Le tire-bouchon, ce qui n'est pas rien. Donc, beaucoup de choses.
Le champagne inventé par les Anglais.
Oui, ça vous choque.
Oui, cela me choque. Lorsque j'étais enfant, on me parlait de Dom Pérignon.
Mais oui, mais le cher Dom Pérignon, qui était un magnifique moine cellerier de l'abbaye de Hautvillers en Champagne, exact contemporain de Louis XIV, qui naît et meurt aux mêmes années, n'a jamais bu une goutte de champagne mousseux. Il faisait sans doute du très bon vin, enfin le meilleur vin possible à cette époque, parce que les hivers sont vraiment froids et longs, et la saison végétative est courte, et les automnes froids très rapidement, mais il a pratiqué, c'est lui qui a inventé ou perfectionné la technique de l'assemblage des raisins pour donner des vins équilibrés. Et ce que les évêques champenois pratiquent toujours, donc l'assemblage de raisins provenant de diverses parcelles pour avoir des cuvées de champagne à la saveur équilibrée.
Parce qu'auparavant, on était plutôt dans le monocépage.
Certainement pas le monocépage, mais on a toujours pratiqué l'assemblage, un vin, un raisin plus mûr avec un raisin moins mûr, et puis assembler des vins provenant de différents cépages qui donnent un goût plus complexe. Si vous ne faites que du blanc de blanc de chardonnay, bon, si c'est du chardonnay très mûr, ce sera délicieux, mais vous allez avoir le goût net du chardonnay. Si vous assemblez pinot noir, chardonnay et pinot meunier, vous avez des vins plus complexes et plus intéressants. Du moins dans le goût, pour faire du champagne mousseux. Ce que les Anglais ont aussi inventé, c'est l'intérêt de faire vieillir les vins rouges mieux cuvés. C'est eux qui inventent la cuvaison longue en Médoc et dans les Graves à Bordeaux. Donc pour avoir des vins beaucoup plus rouges, et donc on passe du claret à ce qu'eux ont appelé le New French Claret, qui est en fait un vin beaucoup plus concentré qui ressemble au Bordeaux d'aujourd'hui. C'est eux qui ont inventé ça au XVIIe siècle. Et quand on met ces vins très tanniques, surtout si le cépage de base est le Cabernet Sauvignon, dans des bouteilles de vin en verre sombre avec un bon bouchon et qu'on le garde 10 ans ou 20 ans, eh bien on découvre que le vin s'améliore, s'affine, devient beaucoup plus séduisant et qu'il révèle les qualités de son terroir, alors que quand il est jeune, bon, on ne voit pas bien la différence. Même aujourd'hui, hein, si vous goûtez un château Latour et un château Lafite Rothschild, qui sont des châteaux très proches, de la même année, 3 mois après la vinification, c'est-à-dire en novembre, il faut vraiment être très fort pour voir la différence. Hein, c'est des vins extrêmement proches. En revanche, à mesure que le vieillissement, bon, 2 années de vieillissement en barrique, puis après 5, ou alors pour les grands crus, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vieillissement en bouteille, là vous avez la révélation. En fait, c'est l'enfermement dans la bouteille avec une oxydation extrêmement lente qui révèle les vertus du terroir et du millésime.
Oui, dans votre livre, il y a une anecdote très plaisante à ce sujet. C'est l'histoire de ce vigneron qui réussit à produire, à élaborer un vin davantage à son image, un vin plus guilleret, plus vif, plus gai. Que celui qui est habituellement élaboré sur son terroir, mais qui confesse qu'au bout de quelques années, lorsqu'il vieillit, le terroir reprend le dessus et reprend ses caractères propres.
Oui, alors ça c'est ce vigneron qui est un des grands vignerons français, qui s'appelle Henri Dubosc, est le propriétaire du château Omar Buzet à Saint-Estèphe en Médoc, et c'est lui qui veut absolument modeler son vin à sa façon, parce que c'est quelqu'un, à la différence de beaucoup de propriétaires bordelais et de consommateurs bordelais qui essayent d'être un peu austères à la manière de l'Europe du Nord, lui est un expansif et un amoureux de la vie, et il veut faire passer ça dans son vin. Et il y parvient, sauf, et il le dit avec beaucoup d'humilité, mais au bout de quelques années, effectivement, c'est le terroir de Saint-Estèphe qui l'emporte. Mais ça montre bien, c'est une belle dialectique entre l'homme et son environnement. C'est un combat un peu comme le combat de l'ange de Delacroix qui est à l'église Saint-Sulpice, où on ne connaît pas l'issue. Et au fond, il n'y a pas d'issue. C'est ça une des grandes richesses de la condition humaine qui nous permet de vivre, c'est justement le fait qu'on ne connaît pas la fin et que tout est à écrire. Notre vie est une page blanche, et une vigne c'est aussi une page blanche dont on essaye d'écrire le millésime, le vin de l'année, mais dont on ne sait jamais très très bien ce qui va sortir. Et par exemple, l'année 2013 est une année qui est pleine de surprises pour les vignerons, avec beaucoup beaucoup de malheurs qui ont fondu sur leurs frêles épaules. Certains n'arriveront pas à faire de bons vins, et d'autres, à force de talent, parfois un peu de hasard aussi, Mais à force de talent, enfin de hasard, en tout cas de conditions très favorables qui ne dépendent pas du vigneron, mais à force de talent certain et de talent d'imagination, d'action concrète sur la vigne et après à la cave, certains vont réussir quand même de beaux vins en 2013. Malgré la catastrophe de la coulure au printemps, du mildiou l'été, de la grêle un peu partout, donc c'est, et d'un printemps pourri, d'un été, semble-t-il, correct, mais d'un automne pas terrible, très très humide, donc qui fait se développer les maladies à toute vitesse, la pourriture. Donc voilà, c'est une année de défi.
Diversité des terroirs, diversité des savoir-faire, diversité des cépages, diversité des millésimes. Avec tant de caractère, comment peut-on penser, comme le craignent beaucoup d'observateurs pourtant avisés, que le vin tende vers une uniformisation, une standardisation ? Y a-t-il réellement des forces qui œuvrent cette standardisation ? Si oui, lesquelles ? Il faut absolument les dénoncer.
Je crois que c'est une tendance aussi de la condition humaine, restons sur le même registre, c'est une tendance de la condition humaine. Nous sommes toujours, à un moment ou à un autre, et certains encore plus que d'autres, surtout s'ils ont le pouvoir, tentés par l'uniformité, parce que c'est plus pratique de gérer l'uniformité, pense-t-on. Je ne veux voir qu'une seule tête, on dit ça, dans l'armée.
Et même à l'école, autrefois.
Et même à l'école, oui, alors ça a un peu changé, ça ne vous a pas échappé. Mais ça a l'air plus pratique, et les économistes rêvent beaucoup de cela. Les économistes, les politiques, certains philosophes, hein, l'uniformisation, l'homme nouveau unique, hein, c'est le projet de tous les totalitarismes, c'est le projet du nazisme, c'est le projet du marxisme-léninisme, c'est le projet du maoïsme, de forger des
individus. Du fordisme ?
Non, je ne crois pas tout à fait, parce que le fordisme s'est intéressé au travail des ouvriers, mais pas nécessairement au reste de leur vie. Un peu, parfois, mais ça ne me paraît pas un totalitarisme. C'est peut-être la dictature de la technique et de l'argent, mais certainement pas un totalitarisme au sens philosophique du terme, où l'idée est de mouler les esprits, ce qui n'est pas le projet, par exemple, de... Les grandes civilisations ne cherchent pas à mouler les esprits, elles cherchent à convaincre d'un certain nombre de valeurs et à les faire partager par le plus grand nombre, mais en mettant en valeur, au contraire, en mettant en évidence l'intérêt de la liberté individuelle et collective qui, seule, est créatrice de nouveautés et d'innovations. Donc en matière de vin, certains ont pensé, il y a encore une quinzaine d'années, moi j'ai beaucoup tempêté contre ces gens-là, dont certains avaient des postes éminents au ministère de l'Agriculture ou à Bruxelles ou dans des grands organismes internationaux s'occupant de vin, que l'avenir était au vin de cépage et au vin passe-partout, facile à reconnaître par des gens ne connaissant pas très bien les vins. Et donc avec cette idée que, par exemple, la France, qui a poussé c'est le plus loin sa diversification des vins, des appellations, avec en Bourgogne en particulier ce concept des climats de Bourgogne, le climat étant un petit terroir produisant un vin homogène, lequel peut être quand même partagé entre plusieurs propriétaires qui ne font pas tous le même vin. Par exemple, Claude Vougeot, climat du Claude Vougeot, 50 hectares, 80 propriétaires, ou 90 maintenant. Donc ça fait 90 Claude Vougeot différents pour chaque millésime. Et pour ceux qui ont des grandes parcelles, si on peut même faire des cuvées différentes entre le haut et le bas du clos, parce que ça n'a pas le même goût. Donc on a poussé à l'extrême en France cette ressemblance du vin à l'endroit d'où il vient. Le génie du lieu appliqué au vin. Et certains disent c'est beaucoup trop compliqué. Et pourtant, quand on voit à quel point aujourd'hui les amateurs du monde entier s'arrachent les grands Bourgognes justement provenant de ces climats, au point qu'il n'y en a pas de disponible et que l'essentiel est exporté à prix d'or. Alors vous me direz, oui, mais alors regardez le Val-de-Loire qui a des vignobles extrêmement différenciés et ça ne se vend pas. Bah oui, mais parce que dans le Val-de-Loire, personne n'a fait l'effort des Bourguignons ou des Bordelais pour aller vendre le vin à l'extérieur. Il y a aussi des centaines de châteaux à Bordeaux. Certains qui ne sont pas connus ont du mal à se vendre, effectivement, encore que maintenant, avec l'ouverture du marché chinois, je pense qu'ils vont bien s'en sortir. Mais si on fait l'effort de faire connaître sa diversité, de faire connaître son originalité, son vin, il n'y a pas de problème. Mais il faut se prendre par la main et aller le vendre. Donc moi, la chaîne du vin, c'est certes un terroir physique, un ensemble de techniques héritées et en progrès constant, un millésime incontournable, des gens, des amateurs, des vignerons qui ont un savoir-faire, qui vendent eux-mêmes ou qui passent par le négoce, mais un négoce qui est très très actif. Le négoce de Bordeaux est un négoce extraordinaire. Le négoce champenois est un négoce de génie dans l'histoire économique du vin. Et puis, le bout de la chaîne qu'on oublie parfois, qui est l'amateur qui paye le vin. Si le vin lui plaît, il le paye. S'il lui plaît beaucoup, il le paye plus cher. Surtout s'il y a trop de demandes par rapport à l'offre. Mais n'oublions pas l'amateur. L'amateur doit se retrouver dans le vin. Et il n'achète que le vin qu'il aime. Personne ne peut forcer un amateur à acheter un vin qu'il n'aime pas. Et malheureusement, il y a des vins qui ne sont pas assez connus, pour lesquels les vignerons n'ont pas fait assez d'efforts pour se faire connaître et que les gens n'aiment pas trop. Je pense à des vins que moi j'aime énormément, qui sont les vins du Jura à base du cépage savagnin. Par exemple, prenons le plus célèbre d'entre eux, qui est une des premières grandes appellations contrôlées de France, qui est le Château Chalon, minuscule. C'est un vin prodigieux, un vin jaune, donc vieilli en fût non houillé pendant 6 ans et quelques mois. C'est un vin extraordinaire, mais il faut savoir avec quoi le consommer. Mais si un jour les Jurassiens faisaient vraiment l'effort d'aller vendre leur vin jaune et leur vin du Jura à base de savagnin, leur arbois, etc., aux Indiens et aux Chinois, et leur montrer que c'est des vins qui s'harmonisent admirablement avec les cuisines épicées ou les cuisines aigres-douces, par exemple les currys. C'est le seul vin qui va bien avec le curry. Oui, mais les gens ne le savent pas, et les Indiens ne le savent pas. Donc, de résultat, les vins du Jura sont bu aux trois quarts en Franche-Comté, ce qui est un petit peu dommage. Enfin, tant mieux pour les Franc-Comtois. Oui, mais enfin, ils vivent pas très bien. Beaucoup, il y a des maisons qui sont au bord de la faillite. Et on a arraché énormément de vignobles, alors qu'il y a là un potentiel extraordinaire.
Pour vendre du vin, il faut donc vendre une culture également. Et dans la mondialisation, le salut ne passe donc pas par la standardisation, mais bien par la capacité à cultiver sa différence, son identité, son excellence.
Mais bien sûr, je pense que les vins de cépage tels qu'on les produit encore aujourd'hui en Australie, au Chili ou en Nouvelle-Zélande, qui c'est pas la totalité de la production, il y a aussi des vins de terroir magnifiques, des domaines qui font des efforts considérables, n'ont pas d'avenir. Aujourd'hui, c'est un gros marché du vin. Parce que c'est vrai qu'un débutant qui n'a pas beaucoup de moyens et qui ne connaît pas bien le vin, mais qui veut en boire parce que c'est chic, parce que, ah tiens, je vais essayer cette boisson. Par exemple, beaucoup de Chinois aujourd'hui, des classes moyennes, qui découvrent, ça fait chic, un peu comme les Français dans les années 60, qui achetaient une bouteille de whisky, trouvaient que ça avait le goût de pharmacie, mais ils achetaient une bouteille de whisky parce que ça montrait qu'ils étaient dans la modernité et qu'ils avaient vu les films américains, ils fumaient des cigarettes blondes alors qu'ils avaient des cigarettes brunes dans leur tradition. Donc le vin de cépage est un vin de débutant. C'est pratique, quand vous ne connaissez pas le vin, bah vous buvez du Cabernet Sauvignon, vous reconnaissez le goût. Un Merlot, c'est un goût différent. Un Cabernet Franc, c'est un goût différent. Un Pinot, un goût différent, etc. Et vin blanc, pareil. Donc c'est pratique. C'est un peu comme l'enfant qui apprend la musique et qui découvre que le son du violon n'est pas le même que celui de la trompette. Donc il apprend les notes, il fait ses gammes, il apprend les sons. Il y avait, quand j'étais petit, un disque qui était très pratique pour ça, qui s'appelait Piccolo, Saxo et compagnie, que vous n'avez pas dû connaître, qui était une merveille de pédagogie. Mais c'est un peu comme on fait ses gammes. Donc on prend un verre de Chardonnay, un verre de Sauvignon, puis on voit que c'est pas pareil. Donc ça c'est les gammes. Après, on passe au morceau de musique, à la symphonie, où là, les goûts sont complexes, même s'il n'y a qu'un seul cépage. Là, on apprend à reconnaître le terroir et que le chardonnay qui vient de Chablis n'a pas le même goût que le chardonnay qui vient de Puligny-Montrachet. Et là, le terroir joue son rôle. Et le savoir-faire, etc. Et là, on entre dans un monde très différent, qui est éblouissant, parce que plus on avance dans la connaissance de cette diversité, plus on a envie d'aller loin. De même que quand on est amateur de musique, plus on avance dans la connaissance d'un compositeur, plus on a envie de l'écouter dans de grandes interprétations. Si on aime Wagner, bah, un jour on a envie d'aller à Bayreuth, où là il y a le top du top. Si on aime l'opéra baroque, un jour on a envie d'aller à Aix-en-Provence. Et là on entend les meilleurs chanteurs, les meilleures interprétations. Enfin, il y a aussi des mauvaises, hein, d'ailleurs. Mais on est côte de même qu'il y a chez les grands vignerons sur les meilleurs terroirs. Vous avez parfois des mauvais vins parce qu'ils ont raté leur coup, parce que le millésime n'était pas très bon. Mais ça, on découvre quand on entre dans cet univers une complexité, une diversité qui est extraordinaire et dont on ne peut plus se passer, enfin dont on ne se lasse plus parce que et dont on ne peut plus se passer. Et je crois que c'est ça la culture humaine aussi, c'est que quand on veut trop simplifier les choses, finalement l'homme recrée lui-même de la diversité. Si vous me permettez un autre exemple que je donne souvent à mes étudiants, Regardez, dans le domaine du vêtement, vous avez un vêtement qui est devenu pratiquement universel maintenant, qui a longtemps été interdit en URSS, qui maintenant est évidemment fabriqué en Russie largement, c'est le jeans. Invention française, enfin, américaine d'un français, à partir de tissu français qui est le denim, et qui fait un vêtement de pionnier solide. On peut faire du cheval, on peut travailler la terre sans problème, ça dure très longtemps parce que c'est extrêmement solide. Puis il y a un juif américain qui s'appelle Levi Strauss qui en fait une fabrication en grand et qui inonde d'abord les États-Unis puis ensuite la terre entière avec ses jeans. Lui-même découvre que s'il a plusieurs modèles, ce sera plus facile de toucher toute la clientèle. Donc, d'où les numéros des jeans Levi-Strauss. Et puis, surtout, comme ces jeans sont portés par les acteurs de Hollywood dans les westerns et dans les films américains des années 60, eh bien, ça devient une sorte de symbole presque sexuel, et le jeans acquiert une toute autre valeur qui est la façon de mouler le corps. Qui explique en partie son succès. Mais il est toujours uniforme, avec les quelques modèles qui sont diffusés. Puis il y a des marques concurrentes qui arrivent sur le marché, qui font des coupes un peu différentes. Et puis arrive la haute couture, avec, donc, qui s'empare, dire, quand Armani fait son premier jeans, c'est quand même une révolution, avec du denim ou avec d'autres tissus, mais de garder cette forme de jeans. Et puis aujourd'hui, je suis complètement étonné de voir que alors le prêt-à-porter de base, les marques les moins chères, font des jeans aujourd'hui avec des trous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Moi, ça me fascine ces trous parce qu'aucun jeans n'a le même trou, ce qui fait que vous pouvez avoir pour 3 sous, vous avez votre jeans à vous. Et donc, un jeune d'aujourd'hui, il a envie d'avoir un jeans dont les trous ne sont pas au même endroit que celui de son copain ou de sa copine. Ou des reprises artificielles, mais qui sont un moyen de se différencier. Et ça, c'est très fascinant parce que l'homme... De l'uniformité n'acquitte un jour l'ennui, et quand on s'ennuie, on fait des bêtises et on s'entretue, et c'est la guerre civile. Donc le meilleur moyen de faire la paix à la surface de la Terre, c'est de permettre à chacun de se différencier tout en vivant ensemble. Et à chaque fois qu'on a voulu uniformiser, ça a explosé, et surtout la diversité a été recréée.
C'est ce qui se produit selon vous sur le marché des vins.
Ah oui, absolument, partout. C'est déjà le cas aux États-Unis. Ça va être le cas en Chine bientôt. C'est partout, partout.
Est-ce qu'on ne peut pas faire une analogie aussi avec les productions industrielles bas de gamme lorsqu'on commence à investir un marché, un savoir-faire? On commence par le faire avec les moyens du bord, si je puis dire. Et puis ensuite, on monte en gamme progressivement.
Oui, on monte en gamme, mais même dans le bas de gamme, il y a une volonté souvent du consommateur de personnaliser l'objet bas de gamme qu'il a acheté pour y mettre sa marque. On voit bien avec les téléphones portables, les gens mettent des petits pendentifs, voilà, c'est plutôt les filles.
Dans le cadre de cette montée en gamme générale du vin, y compris sur les autres continents et les pays qui en produisent plus récemment, quel avenir voyez-vous à la viticulture française ?
Ah bah pour moi, elle a un grand avenir si elle se maintient à un très bon niveau, si elle continue à progresser et si elle continue à faire des efforts pour vendre à l'étranger. Alors, je ne m'inquiète pas pour le champagne qui s'arrache. Mais même la crise économique grave en ce moment n'a pas beaucoup, beaucoup affecté les maisons de champagne qui continuent à vendre parce qu'il y a des pays qui ne connaissent pas la crise. Les grands Bordeaux n'ont aucun problème. Les Bordeaux moyens jusqu'aux crus bourgeois n'ont pas de problème réel. En revanche, plus bas, dans les Bordeaux génériques et Bordeaux supérieurs, il y a parfois des problèmes, sauf les vignerons qui ont fait un gros effort d'avoir des importateurs, d'aller à l'étranger. En Bourgogne, personne n'a de problème. Ça. Il n'y a pas assez de Bourgogne par rapport à la demande mondiale. Les régions les moins connues, comme la Loire, ou certains vignobles du sud-ouest, je pense Jurançon, Gaillac, Cahors, Bergerac, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, mais manque de réputation. En revanche, on voit en Italie le même mouvement, c'est-à-dire que les grands vignobles qui ont une réputation ancienne comme le Barolo ou le Chianti, je parle du Chianti Classico, n'ont aucun problème pour vendre à l'étranger. Là aussi, on s'arrache ses vins et très cher. Les vignobles espagnols qui ont fait d'énormes progrès n'ont aucun problème. C'est ceux qui sont encore dans le bas de gamme qui ont le plus de difficultés. En France, c'était la plaine du Languedoc, ça a pratiquement tout été arraché, mais les vins de coteaux dans le Languedoc se vendent bien maintenant. En Espagne, il y a encore des grands vignobles de masse dans la Mancha, mais ça va disparaître. Dans la Puglia, en Italie, qui était la grande région, comme le Languedoc, de vignobles de masse de consommation courante, aujourd'hui, il y a un très gros effort pour faire des vins de qualité, et plutôt sur les coteaux. Donc, je crois que le vin est une boisson universelle aujourd'hui. Les seuls pays qui ont encore quelques réticences, et encore, ce sont les pays musulmans. Mais il y a des pays musulmans dans lesquels la viticulture va assez bien. Je pense à la Tunisie, par exemple, où il y a de très gros progrès, ou au Maroc, très gros progrès en matière de qualité des vins. L'Iran était un pays viticole, mais évidemment, l'arrivée des mollahs a tué complètement la viticulture. S'il y a une libéralisation, ça repartira, parce qu'il y a une vieille tradition viticole en Iran. En Turquie, il y a un vignoble qui est en progrès. J'ai visité récemment des vignobles turcs où l'on fait des vins magnifiques. Donc le gouvernement est évidemment assez réticent actuellement à ce que la viticulture s'étende. Mais il y a une forte pression de la part des Turcs, du peuple turc qui aime le vin, qui va à la mosquée, mais qui aime le vin et qui aime aussi le rakı, qui est l'alcool, le marc parfumé à l'anis. Donc c'est assez compliqué la situation de l'islam. Hein. Et puis il y a des pays qui sont musulmans depuis relativement peu de temps, depuis quelques siècles, et qui n'ont jamais abandonné la viticulture qu'ils pratiquaient avant. Je pense à la Chine orientale, la Chine occidentale, le Xinjiang, habité par les Ouïghours, qui sont des turcophones musulmans, mais qui pratiquent la viticulture et qui font du vin. Moi, j'ai eu la chance d'aller à la fête du vin à Turfan, une oasis du Xinjiang. Je peux vous assurer qu'on suçait pas de la glace, comme on dit. On ne buvait pas beaucoup d'eau minérale au cours de cette fête du vin.
Oui, je crois que dans les anciennes républiques musulmanes d'ex-Union soviétique...
Alors, on boit beaucoup de vodka, là. Mais il y a aussi un peu de vin. Aussi un peu de vin en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, et un peu. Bah, c'est pareil que le Xinjiang. Ouais.
Dans cette compétition généralisée, cette quête généralisée à l'excellence, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi envoyer des signaux positifs? On parle beaucoup en ce moment de promouvoir la marque France. C'est-à-dire qu'il faut aussi se mobiliser derrière ses savoir-faire, derrière ses savoir-faire traditionnels. On a vu que d'ailleurs, derrière citer une marque France, l'idée de promouvoir les savoir-faire de l'artisanat d'art est très présente. Le vin, après tout, fait partie de ces produits d'artisanat d'art, voire de luxe. C'est une industrie de luxe à bien des égards. Dans ce contexte, n'est-il pas étonnant, voire consternant, de voir la France s'engager dans une dynamique moralisatrice, voire hygiéniste, voire portant un regard extrêmement négatif sur le vin, tel qu'on a pu en avoir une illustration tout récemment, avec ce rapport interministériel qui assimile peu ou prou le vin à un alcool fort, voire même à une drogue.
Alors effectivement, c'est absolument navrant, alors qu'il y a des pays comme l'Espagne ou comme l'Argentine qui proclament haut et fort les politiques, hein, au plus haut niveau, que le vin est une boisson de culture et la boisson nationale. Madame Kirchner, qui a récemment fait inscrire cela dans la loi. En France, on en est un peu dans une situation qui est celle des États-Unis à la veille de la prohibition, et bientôt on va voter des lois. On a déjà voté, la loi Evin est une loi de prohibition, clairement, alors qu'en Espagne, on fait la publicité pour le vin et que l'alcoolisme n'est pas plus développé en Espagne qu'il ne l'est en France. L'alcoolisme, il faut le savoir, est de manière très très rare lié au vin. Il y a des gens qui boivent trop de vin et qui ont une addiction alcoolique. Puisque bien sûr, comme il y a de l'alcool dans le vin, on peut acquérir l'addiction. Mais si on s'intéresse au vin, justement dans ses différences et dans toute sa richesse culturelle, on ne tombe pas dans l'alcoolisme. L'alcoolisme, il est lié aux alcools forts qui, eux, créent une accoutumance beaucoup plus grande et qui sont beaucoup plus dangereux parce qu'il y a évidemment beaucoup plus d'alcool. Quand vous buvez pur ou juste avec quelques glaçons, plusieurs whisky par jour ou de la vodka glacée, là, vous pouvez tomber facilement dans l'addiction alcoolique. Et les jeunes français qui tombent dans l'alcoolisme facilement, la défonce du vendredi soir, ce qu'on appelle en anglais le binge drinking.
Phénomène récent.
Phénomène récent qui vient d'ailleurs d'Europe du Nord. C'est un phénomène ancien en Scandinavie et en Angleterre, hein, la défonce du vendredi soir ou du samedi soir. Ce qui est nouveau et qui m'apparaît un peu terrifiant, c'est que ça se pratique aussi. Déjà, ça me paraît horrible d'aller jusqu'aux limites du délirium très mince. et en tout cas de catastrophique pour la santé.
Oui, car là, ce n'est pas un dégât annexe, c'est ce qui est recherché.
Oui, bien sûr, c'est ça, c'est recherché, et c'est recherché à une heure qui me paraît invraisemblable, tout ce que je lis sur le sujet. Beaucoup de jeunes pratiquent ça le vendredi soir, par exemple, ou samedi soir, à 18h. Donc à 19h, 19h30, ils sont dans un état second, au bord du coma éthylique. Hein, et on voit bien comme ça se passe souvent au bord des rivières, quand il y a une rivière, ils tombent à l'eau, ils se noient. Il y a eu des cas à Bordeaux, à Nantes, à Paris, dramatiques. Donc ça me paraît un signe inquiétant du mal de vivre. C'est une sorte de suicide, même si ce n'est pas aussi volontaire que de se tirer une balle dans le crâne, mais c'est une sorte de suicide à l'alcool et de refus de voir la réalité en face. Parce que l'ébriété, même un peu avancée, exceptionnelle, qui peut se produire quand on boit après un match de rugby ou avec des amis ou un jour de grande fête, bon, c'est pas recommandable, loin de là. Mais dans le feu de l'action et de la sociabilité, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je pense qu'à Cana, puisque j'ai parlé tout à l'heure de Cana, dans la mesure où Jésus a transformé quand même 600 litres d'eau en vin, je ne sais pas combien ils étaient à cette noce, on était nombreux, je crois, dans les noces en Palestine, et on l'est toujours en Orient, mais quand même, ils ont sûrement beaucoup bu, et ils ont dû chanter après. Donc ça, ce sont des moments de transgression, dont la littérature a fait grand cas. Lisez Rabelais, par exemple, et plein d'autres auteurs qui sont plutôt sympathiques, mais bon, qui n'ont pas de raison de mettre en valeur non plus exagérément en disant « c'est ça, c'est bien, si vous pouvez arriver là, c'est formidable ». Non, mais boire du vin régulièrement, du bon vin, en mangeant de façon raisonnable en fonction de sa constitution, de son métabolisme, il faut faire très attention. Mais c'est une bonne chose, et c'est bon pour la santé. Il faut arrêter de dire, tous les médecins sérieux le disent, que le premier verre de vin risque plus de risques d'attraper le cancer. C'est totalement, totalement absurde. D'autant plus que les enquêtes qui avaient été faites, qui ont permis de dire ça, n'ont même pas demandé aux gens s'ils fumaient ou pas. Il est évident que fumer, oui, on le sait, on connaît parfaitement le processus. Mais boire 3 verres de vin par jour, ce qui, je crois, est la dose, j'allais pas dire recommandée, mais enfin, est la dose normalement maximale tout au long de sa vie, hein, de son enfance jusqu'à sa mort, me paraît au contraire extrêmement sain pour la santé. Je connais quelques personnes très 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 âgées qui mourraient immédiatement si on les privait de leur verre de vin à chaque repas.
Je connais même quelques-uns de plus jeunes.
Et même quelques-uns de plus jeunes, oui. Ouais. Non, mais non, on peut se rebeller, mais quand vous imaginez, si on vous prive dans une maison de retraite, si on vous prive de votre verre de vin, qui est la lumière du milieu du jour et de la soirée, c'est dramatique.
C'est un acte barbare.
C'est un acte de barbarie épouvantable.
Et de torture. Dans ce que vous nous dites finalement, et ce que l'exemple des jeunes qui s'adonnent à ce binge drinking démontre, semble démontrer en tout cas, ne soyons pas définitifs, c'est qu'à mesure que la culture du vin, la vraie culture du vin, régresse dans ces générations, un autre type de pratique franchement alcoolique progresse. Dans votre ouvrage sur l'amour du vin, vous citez à cet égard une lettre de Marius Roustan,
grand ministre de l'instruction publique.
Voilà, qui enjoignait en 1931 au recteur d'académie d'inciter les instituteurs et les professeurs de faire, je cite, « la propagande du vin ». Une injonction qu'il justifiait, d'une part, par la nécessité de promouvoir la fierté nationale dans une époque où où il était nécessaire de la cultiver, mais aussi par un souci sanitaire. Le ministre estimait en effet, et je le cite à nouveau, que rien ne vaut mieux pour combattre l'alcoolisme que l'usage modéré du vin, et de conclure en affirmant que la défense du vin fait partie de l'indispensable lutte contre l'alcoolisme. Ne faudrait-il pas
éditer à nouveau
cette lettre et l'envoyer au recteur d'académie aujourd'hui?
J'ai essayé à plusieurs reprises de promouvoir cette idée-là auprès des derniers ministres de l'Éducation nationale. Je n'ai pas eu de succès, vous en doutez. J'ai même écrit avec Jean-Pierre Coff un rapport pour un ministre de l'enseignement supérieur il y a quelques années, dans lequel nous disions, dans ce rapport, que le restaurant universitaire était un bon endroit où l'on pouvait initier justement les étudiants à la dégustation raisonnable du bon vin en s'appuyant sur les jeunes vignerons de la région où se trouve l'université. Et on a été très durement attaqué à la une d'un grand journal, d'un grand quotidien du soir, et un peu désavoué par le ministre en question le jour où nous avons remis notre rapport sur ce point-là face à la presse. Donc nous nous sommes défendus et nous avons tenu des propos à peu près comparables à ceux de Marcel Roustan dans les années 30, c'est-à-dire que effectivement les années 30 c'était encore un alcoolisme à l'alcool dur, et puis ceux qui les grands-pères qui avaient fait la Première Guerre mondiale buvaient du vin, mais ils buvaient beaucoup d'alcool aussi, et il y avait des bouilleurs de cru encore dans ce pays, avec des alcools mal distillés qu'on buvait dès le matin, de la gnôle dans le café. Donc ça, évidemment, c'est catastrophique. Ça, c'est très très mauvais pour la santé, et les hommes mouraient extrêmement jeunes. Donc apprendre à boire raisonnablement du bon vin, à reconnaître les vins, c'est une part essentielle de l'éducation des jeunes Français. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans les grandes écoles, vous avez aujourd'hui un certain nombre de clubs de dégustation qui marchent très très bien, et ces jeunes-là qui sont dans ces clubs de dégustation, HEC, Sciences Po, etc., ne pratiquent pas la défonce. Au contraire, ils sont déjà passionnés, parce qu'en plus, bon, ça va leur servir dans leur carrière, pour ceux qui seront dans les affaires, parce que ça crée un sacré lien. Quand vous êtes un homme d'affaires français et que vous allez faire des affaires en Extrême-Orient, je peux vous assurer que d'apporter du vin et de partager du vin avec vos partenaires économiques, ça crée un lien d'affection qui est aussi fort que si vous parliez leur langue. Donc moi je recommande vraiment à la France d'être fière de ses vins. Par ailleurs, sur le plan économique, c'est quand même, dit-on, ne parlons que de l'exportation des vins, c'est l'équivalent de 140 Airbus. C'est énorme. Mais à côté de ça, combien d'argent vient en plus par le fait que des touristes viennent en France pour bien manger et pour bien boire. Et en plus, après, ils deviennent des clients sûrs et stables de la France. Donc, ils viennent en France pour faire du tourisme, et le tourisme œnologique est en grand essor. Le tourisme gastronomique l'a toujours été. Vous savez, sans les étrangers, beaucoup de restaurants des villes françaises, mais des campagnes aussi, beaucoup de restaurants étoilés qui sont au fin fond des campagnes fermeraient s'il n'y avait pas les clients étrangers. Je pense à l'Alsace, je pense à la Bourgogne, des restaurants qui sont quand même dans des petites villes difficilement accessibles et où il y a les deux tiers de la clientèle qui est étrangère et qui vient là, surtout au dîner, parce qu'ils n'ont plus besoin de conduire, qui vient au dîner pour faire un très bon repas, boire de très bonnes bouteilles et goûter la France.
C'est ça, les gens qui rendent visite à la France, curieusement, souhaitent rencontrer la France.
Oui, la vraie France.
Chose que certains ont tendance à oublier. Quel conseil donneriez-vous à un jeune ou un moins jeune qui aujourd'hui souhaiterait s'initier au vin ? Car un des problèmes, on s'en rend compte, un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est que finalement cette initiation auparavant, comme vous l'avez fort bien dit au début de notre émission, elle se faisait dans un cadre familial, de façon spontanée, naturelle, car c'était une culture vécue, vivante, donnée.
Oui, et liée à l'affection qu'on pouvait avoir pour les siens, oui. Voilà.
Aujourd'hui, il semble que pour des raisons de mode de vie ou autre, le lien ait été rompu. Il faut donc se le réapproprier de façon volontaire. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut
écoutez,
renouer ?
Aujourd'hui, d'abord, vous avez énormément de publications de livres d'initiation qui sont très bien faits, y compris sur les odeurs, avec des caisses de petits flacons d'odeurs pour apprendre à reconnaître les odeurs du vin. Vous avez beaucoup, beaucoup de clubs, de lieux d'initiation où on peut être encadré. Vous avez des marchands de vin qui sont souvent assez bons connaisseurs et qui donnent de très bons conseils. On est quand même un peu moins bon que le Québec, pays qui a gardé l'époque de la prohibition un monopole d'État sur toutes les boissons fermentées, les boissons alcoolisées, y compris sur le vin. Ça s'appelle la SAQ, Société des Alcools du Québec, qui a le monopole de vente du vin et des alcools, mais qui a monté dans toutes ses boutiques des cours d'initiation, des fiches très très bien faites, et qui considère que c'est son devoir d'initier les Québécois au vin. Et les Québécois qui étaient des buveurs de bière et d'alcool fort il y a encore 30 ou 40 ans sont aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux, y compris dans les classes moyennes, des consommateurs éclairés de bons vins et qu'ils cherchent à marier avec leur cuisine. Donc, du coup, leur cuisine est en progrès. Et du coup, aussi, les produits traditionnels du Québec, je pense au cidre, sont en progrès aussi. On cherche à faire des cidres de terroir et c'est passionnant de voir comment ce peuple découvre la gastronomie, parce qu'on mangeait, semble-t-il, fort mal des plâtrés de fèves au Québec il y a 50 ans. Et aujourd'hui, vous avez des marchés paysans partout, vous avez des restaurants de terroir, des bistrots qui s'ouvrent partout dans les villes. C'est un pays qui considère que bien manger et bien boire fait partie de son identité. Et on voit la même chose, curieusement, dans les villes américaines du nord des États-Unis. Alors ça touche le milieu bobo, mais les bobos font attention à leur santé, donc ils n'achètent pas n'importe quoi. Ils essayent de ne plus manger de hamburgers des grandes marques que vous connaissez et de se tourner vers des produits de qualité, même de cuisiner un peu. C'est la mode de commencer à cuisiner. Donc il serait paradoxal que les Américains reviennent dans leur cuisine, qui souvent d'ailleurs est très vaste et très bien équipée, mais dans laquelle ils ne cuisinaient pas, alors que les Français suppriment les cuisines de leurs appartements et mettent une vague cuisine dite à l'américaine avec un bar qui empêche totalement de cuisiner, parce que vous ne faites pas un plat mijoté pendant deux jours dans une cuisine qui est ouverte sur votre salle à manger, votre chambre à coucher, parce que ça sent fort. Donc je trouve que ce mouvement à l'envers me fait penser à un roman d'Anatole France qui s'appelle Thaïs, et où l'on voit une prostituée d'Alexandrie et un moine très saint qui s'appelle Paphnus, et Paphnus essaye de convertir Thaïs, et à mesure que Thaïs se convertit et va vers la sainteté, Paphnus descend vers la débauche et vers le péché. Donc la France est un peu Paphnus, alors que d'autres sont en train de suivre la voie de Thaïs.
Écoutez, conjurons, espérons que nous pourrons conjurer ce sort funeste, et redécouvrir que la modernité, finalement, et l'avenir, c'est probablement la redécouverte et la capacité à faire progresser aussi nos traditions. J'aime beaucoup cette citation de Cocteau, « La tradition, c'est une statue qui marche ». Souhaitons
ou combien
que la viticulture française cultive à la fois ses racines et son formidable potentiel. Pour terminer sur une note plus légère, en me rendant dans les studios de Cadalec Academy, j'ai cru observer quelques pieds de vigne dans la cour d'honneur. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ?
Oui, notre institut de France possède un vignoble, ces quatre grands pieds de vigne en espalier, le long du mur exposé plein sud, qui est face à la coupole et à l'entrée majeure de la coupole. Et l'année dernière, ces quatre pieds de vigne magnifiques croulaient sous le raisin. Certes que les étourneaux et les quelques merles épis de Paris sont venus déguster, mais moi je l'ai goûté, il était excellent. Cette année, eh bien, ça a bien poussé au début du printemps, et puis mais avec du retard. La fleur ne s'est pas faite, parce qu'il a fait très très froid au mois de juin. Il y a eu de la coulure sur les quelques fleurs qui ont pu éclore. Donc déjà, peu de chance d'avoir du raisin. Et puis alors après, s'y est mis le mildiou et l'oïdium. Ces vignes sont dans un état pitoyable. Et donc, oublions-les pour cette année. Et pourtant, elles sont dans un terroir magnifique, puisque elles sont le long d'un mur exposé plein sud sur le quai de Conti. Et Conti, écoutez, me fait penser à Romanée Conti aussi.
Bien sûr.
Mais je ne crois pas qu'on puisse produire un vin équivalent à la Romanée Conti.
Toutefois,
dans notre
c'est
couvent.
Ces vicissitudes météorologiques subies par les plantes vignes de l'Institut nous rappellent ô combien que l'Institut se situe bien au cœur de la France et vit à son rythme. Et c'est ce que nous allons tenter de vous démontrer à travers nos prochaines émissions, en espérant que cette première d'une nouvelle série vous donne envie de nous suivre au fil des semaines, des mois et des années à venir. Jean-Robert Pitt, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie de nous aider à faire redémarrer ce bel instrument qui est Canal Academy.